Bonjour à chacun de vous. Alors, dimanche dernier, nous avons considéré un grand texte de la Bible, du Nouveau Testament, de l'Évangile de Luc, la parabole du Fils prodigue. Et puis, j'ai passé tout le temps de la prédication à essayer d'expliquer un tout petit peu, parce qu'il faudrait y passer des heures, l'interprétation qu'en a faite le grand peintre Rembrandt dans ce tableau qu'il a appelé « Le retour du fils prodigue » et qui est exposé au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Alors, si quelques personnes veulent aller à Saint-Pétersbourg et veulent un accompagnant à qui ils offriraient le voyage, je suis partant. Voilà ce tableau, hein. Et ce matin, je vous invite à voir un peu comment Jésus parle de ce fils prodigue. Mais avant cela, Martine va nous lire le texte dans Luc chapitre 15, uniquement du verset 11 au verset 25 ou 24, puisque nous nous arrêterons à la partie qui concerne ce fils. Alors, si vous avez une Bible, ouvrez-la. Sinon, eh bien, ouvrez grand vos oreilles. Voilà.
Luc 15, verset 11. Un homme avait deux fils. Le plus jeune lui dit, « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. » Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là et il commença à manquer du nécessaire. Alors, il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit « Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à sa rencontre, à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir. Car voici, mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer dans la joie.
Merci. Jésus a parlé en parabole. Alors les paraboles, vous le savez, hein, ce sont des histoires simples qui contiennent des images de la vie courante des gens à qui Jésus s'adresse, essentiellement des gens qui venaient de la campagne, qui était habitué aux travaux des champs. Et les paraboles ne contiennent pas, comme les fables, une morale, mais une vérité ou des vérités sur le genre humain, sur Dieu, sur la façon qu'a Dieu d'agir dans le domaine du salut. Et il parle bien sûr, en tout cas pour cette parabole que nous avons ici, de la relation que nous devrions voir avec Dieu. Qui est Dieu? Comment se comporte-t-il avec nous qui sommes des pécheurs? Alors c'est souvent ces paraboles un enseignement étonnant, déroutant. Ces paraboles provoquent notre curiosité, elles nous interpellent et nous présentent Dieu de façon tout à fait inattendue, ce qui peut sembler aussi assez surprenant parce que le peuple de la Bible qui nous a transmis la parole de Dieu était habitué à parler de Dieu. Or, même en connaissant Dieu, en ayant passé du temps avec Dieu, on peut passer à côté de l'essentiel, ou oublier ou négliger l'essentiel. Par exemple, qu'un Samaritain soit présenté comme un héros et un prêtre comme un zéro, c'est pour un auditoire juif plus que surprenant, même choquant. Alors la parabole du père et de ses deux fils, parce qu'il ne faut pas oublier le second fils, qui est probablement le personnage debout, figé, droit comme un i, à la gauche, enfin à votre droite, à la gauche du tableau de Rembrandt, nous enseigne qui est Dieu et comment il nous accueille. Cette parabole est la parabole la plus longue des évangiles. C'est à mes yeux un chef-d'œuvre de perception psychologique, de connaissance intime de Dieu et de l'être humain. Et à mes yeux, elle fait partie, ou elle devrait faire partie, des textes littéraires de génie. Si Victor Hugo était un génie, Jésus, en donnant cette parabole, est un génie, mais cela ne nous étonnera peut-être pas que le créateur de l'univers soit génial. C'est la parabole par excellence de l'amour de Dieu pour les perdus et de ce qu'est la grâce de Dieu. Tout à l'heure, André a parlé de la grâce, mais je ne suis pas sûr que nous comprenions vraiment bien ce qu'est la grâce de Dieu. C'est tellement extraordinaire, tellement grand, tellement surprenant. Et cette parabole nous aide à mieux comprendre cette grâce. Alors nous voici devant un père qui avait des biens, une famille aisée, il y avait des serviteurs au service de ce père, probablement un propriétaire terrien. Et nous le voyons, ce père, dans une relation assez curieuse avec ses deux fils. On pourrait même dire que c'est une relation catastrophique. Le fils cadet demande sa part d'héritage. Ça ne se faisait pas, même aujourd'hui, ça ne se fait pas. L'héritage, ça se partage à la mort du père. Alors c'est considérer le père comme étant déjà mort, aussi comme le fils cadet souhaitait sa mort. Je vais vous raconter une petite histoire qui est authentique. Je la tiens d'une personne qui m'a assuré que cette histoire était authentique. C'est une petite fille qui va voir sa mamie et qui lui dit: ferme les yeux, mamie. Mamie lui dit: mais pourquoi veux-tu que je ferme les yeux? Ferme les yeux, mamie. Alors la mamie ferme les yeux, et la petite fille dit à son petit frère: tu vois, maintenant nous sommes riches. La mamie ouvre les yeux, dit: mais pourquoi tu dis ça? Ah, mais parce que maman nous a dit que quand tu fermerais les yeux, nous serions riches. Ce jeune homme, ici, je suppose qu'il était jeune, n'avait qu'une seule idée en tête: quitter la famille pour vivre sa vie. Vivre enfin, s'éclater, profiter de la vie loin des regards réprobateurs de sa famille. Il en a assez probablement d'une vie monotone, où on voit toujours les mêmes visages. Il veut du neuf, du différent, et dans sa tête, il est déjà parti. Alors il réclame son héritage. Et ce qui est surprenant, c'est que le Père accède à la demande de ce fils cadet. Le texte nous dit qu'il partagea ses biens entre eux, entre ses deux fils. Et ce qui est aussi surprenant, c'est que le fils aîné ne proteste pas, on ne le voit pas du tout protester, il accepte en silence sa part d'héritage. Alors c'est vrai que lui ne la transforme pas en argent pour aller ensuite la dilapider. Voilà donc une famille unie, une famille de travailleurs. Et d'un seul coup, on apprend qu'il n'y a pas de dialogue, ni entre les deux frères, ni entre les fils et leur père. Pas de relation profonde avec le père. Et c'est peut-être pour cela que le père accède si facilement à leur demande. Il sait que cette relation est cassée, probablement depuis longtemps. Alors il dit oui, surprenant, sans discuter. N'est-ce pas là l'histoire de notre humanité ? Une humanité qui ne veut pas de Dieu, qui se détourne de Dieu, qui se détourne du Père, et qui gaspille, dilapide l'héritage. Pas toujours, bien sûr. Il y a des travailleurs, il y a des gens qui le mettent en valeur, bien sûr. Mais en règle générale, nous gaspillons, et dans le domaine écologique notamment. Alors voilà, le fils cadet va vivre sa vie dans un pays lointain, sans doute à une bonne distance de sa famille pour l'oublier complètement. Il gaspille son bien, celui qu'il avait reçu de son père, et en général, l'argent n'a pas de problème pour vous filer entre les doigts. Il dépense tout, nous dit le texte, en vivant dans la débauche. Et la traduction œcuménique de la Bible traduit « il dilapida ses biens dans une vie de désordre ». Jusqu'au moment où il se retrouve sans rien, les mains vides, dans un pays où sévit une famine sévère. Sans doute ne l'avait-il pas prévu, on ne peut pas tout prévoir. Et quand on est étranger, quand on n'a pas un sou, on a de la peine à s'en sortir dans un pays où il y a de la famine. Comble pour un juif, il se contente de nourrir les pourceaux. Lui, le fils de bonne famille, est descendu bien bas dans son humiliation. Mais peut-être le fallait-il pour qu'il se mette à réfléchir. Notre cerveau est ainsi fait qu'il se met, en tout cas c'est le cas pour le mien, hein, je ne sais pas si c'est le cas pour le vôtre, mais il se met à travailler sous le régime de la nécessité. Et le texte nous dit « rentrer en lui-même ». Il se rend compte de sa situation. Et pour cause, il éprouve la faim. Et il se souvient, il a de la mémoire, que chez son père, les ouvriers agricoles ont suffisamment à manger. C'est le ventre creux qui le fait réfléchir. Tant qu'il avait de quoi se nourrir, il n'avait pas de besoin. Et c'est dans nos sociétés d'abondance que les hommes ne réfléchissent pas sur leur dépendance de Dieu. On dépend tous de Dieu. Sur leur besoin de Dieu, puisqu'ils croient tout avoir. Tant qu'il avait de quoi se nourrir, il n'avait pas d'autres besoins. Mais là, il n'en peut plus. Il meurt littéralement de faim. Il est dans une situation sans issue. Et du coup, il prend conscience que chez son père, il y a à manger. C'est cette prise de conscience qui le fait réagir. Alors, il va concevoir un plan d'action qui lui semble tout à fait raisonnable. Il réfléchit, il sait réfléchir. Descartes n'était pas encore né, mais il savait être cartésien. Alors, dans son stratagème, il se dit « je vais rentrer chez mon père, mais je ne suis plus digne d'être son fils ». Donc, je vais lui demander de m'accepter comme un ouvrier agricole, comme tous ces ouvriers agricoles qui se présentent un beau matin chez un propriétaire terrien et qui demande s'il y a du travail. Il me donnera un salaire. Je pense que je vais lui rembourser une partie de ce que j'ai gaspillé. Je ne peux pas lui rembourser tout, il y en a trop, mais quand même, je vais faire un effort. Et puis le soir, eh bien voilà, je rentrerai chez moi, je serai indépendant, j'aurai mon salaire, et puis j'aurai de quoi manger, de quoi subvenir à mes besoins. Il échafaude un plan de salut à la dimension de son intelligence. Et dans cette perspective, la réconciliation avec son père n'est pas nécessaire. Il ne pense pas que ce soit possible, d'ailleurs. Il n'y croit pas. Il a trop dépensé, il a fait trop de bêtises, il s'est trop éloigné de ce père. Il n'envisage même pas la réconciliation. Tout ce qui l'intéresse, c'est d'avoir de quoi manger et de rester indépendant. C'est la justice humaine que nous côtoyons tous les jours. C'est exactement ce que font les hommes. C'est pour ça que j'ai dit que c'était un plan réfléchi, cartésien. Un tel a fait une grosse bêtise. Il mérite tant d'années de prison. Donc, symboliquement, il rembourse sa dette. Il y a des dommages et intérêts. Il faut donc qu'il rembourse. Et ensuite, il sera réhabilité dans la société. Pas complètement, puisque son casier judiciaire le suivra toute sa vie. Il ne pourra pas prétendre à n'importe quel travail, surtout pas dans l'administration. N'oublions pas les auditeurs de Jésus. J'ai dit dimanche dernier que c'est dans un contexte bien particulier que Jésus adresse trois paraboles, celle de la brebis égarée, celle de la pièce égarée, perdue, et celle du fils prodigue. Et c'est parce que des docteurs de la loi, donc des gens d'un certain niveau, qui prétendaient s'y connaître en parole de Dieu, lui reproche de côtoyer des gens de mauvaise vie à Jésus. C'est à ces gens-là qu'il s'adresse en premier. Alors, parmi les auditeurs de Jésus, certains pouvaient se dire, mais ce jeune homme-là, il a agi de façon odieuse avec son père, il ne mérite même pas qu'il le reçoive, même pas comme son ouvrier. D'autres pouvaient dire, il a dilapidé son bien. Qu'il paye pour rembourser au moins une partie de sa dette. Ça lui fera du bien de trimer comme un serviteur. Il avait la vie trop facile avant. C'est la justice humaine. C'est nous, c'est nos raisonnements humains. C'est le judaïsme. C'est la religion avec ses œuvres pour être sauvé. C'est le donnant-donnant. Moi, je donne à Dieu des bonnes œuvres. Je fais le ramadan. Je rends service à mon prochain. Je dis quelques pater, quelques ave. Et puis, en retour, Dieu, peut-être, si j'ai été assez bon, m'accordera le salut éternel. C'est un système qui voit dans le salut un moyen de rétribution, mais ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas le salut de Dieu, ce n'est pas la personne de Dieu. Alors maintenant qu'il a échafaudé son plan, il prend la décision de retourner chez son père pour lui dire « J'ai péché contre Dieu et contre toi ». Il reconnaît sa faute, c'est bien. « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils ». C'est bien aussi, il reconnaît ici son indignité. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. C'est bien aussi. Il accepte de se repentir, de s'humilier, de retourner, ça demande un effort, du courage, chez son père. Mais en exposant son plan de salut, Il oublie qu'il met de nouveau son père dans l'embarras. Comment en effet un père peut-il côtoyer tous les jours son fils comme s'il n'était pas son fils ? Imaginez un père juge, président du tribunal, qui doit condamner son fils à une peine de prison. Je ne sais même pas si ce serait possible. Je pense que lorsqu'il y a des liens de famille, il doit y avoir à ce moment-là une substitution, un autre juge qui prend sa place, parce que c'est trop dur, c'est pas possible. Même si le père acceptait ce marchandage, son estomac se nourrait à chaque fois qu'il croiserait son fils, car un fils reste toujours un fils, même quand c'est un fils indigne. Alors ce jeune homme se lève, retourne chez son père, c'est une décision importante, une décision qui va le mener là où il ne s'y attend pas, parce que Dieu va démolir son échafaudage à son avantage. Un ouragan, un cyclone, un tsunami, appelez ça comme vous voulez, a balayé son échafaudage, l'a réduit en miettes. Parce que son père n'est pas à son image. Il s'était fait une image terrestre, humaine, pécheresse de son père. Et ce père ici, bien sûr, c'est Dieu, tout le monde l'aura compris. Ce père manifeste de la tendresse, manifeste tout l'amour qu'il avait toujours eu, gardé pour son fils. Il va le restaurer dans la communion, dans la dignité qu'il avait auparavant. Il ne s'en était même pas rendu compte de cette communion et de cette dignité qu'il avait avec son père. Il le couvre de baisers, il l'embrasse tendrement, en signe de pardon, de réconciliation. Et en fait, il attendait ce moment depuis que son fils était parti. Il le guettait, c'est quand il le voit au loin qu'il court à sa rencontre. Sans doute priait-il pour que son fils revienne à la maison. Voilà le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu de la Bible, le Dieu vrai. Réel, notre Dieu, un Dieu de compassion, de pardon, de réhabilitation, sans condition, sans régime probatoire. Il ne lui dit pas pendant un an, tu vas travailler comme mon serviteur, puis après on verra. Non, c'est tout de suite, immédiatement, qu'il l'accueille comme son fils. Et c'est là, je crois, au moment de ses paroles, qu'il faut situer la conversion du fils prodigue. Parce que c'est à ce moment-là seulement que le fils comprend que tout ce bel échafaudage qu'il avait construit est ridicule et que son père ne dit pas de bêtises, il ne blague pas, il ne le mène pas en bateau. Il va redevenir ce fils qu'en fait il n'avait jamais été véritablement. La conversion, c'est reconnaître son péché, c'est tort devant Dieu, mais c'est aussi accepter l'amour, la bienveillance de Dieu, son pardon intégral. C'est d'être intégré à la famille de Dieu, alors qu'on ne le mérite pas, c'est de pouvoir l'appeler notre Père qui est aux cieux. Le Fils se préparait à se racheter par ses efforts, si tant est que cela puisse être possible. Et il rencontre un accueil auquel il ne s'attendait pas et qui le bouleverse. Combien son plan devait lui sembler mesquin au moment où il reçoit la plus belle robe l'anneau au doigt, des sandales aux pieds. Dans le tableau de Rembrandt, il y a un pied où la sandale est à moitié partie, l'autre, on voit le talon, ses sandales sont usées jusqu'à la corde, sa robe est déchirée. C'est le fils ou les personnes de la maison qui portaient des sandales. Les serviteurs allaient nu-pieds et les visiteurs se déchaussaient en entrant pour qu'on leur lave les pieds. Cette robe, cet anneau au doigt, ces sandales le distinguent des serviteurs. Il n'est plus, il n'est pas, il ne peut pas, Dieu ne veut pas qu'il soit un serviteur, un ouvrier. Il veut qu'il soit un fils. Et les symboles sont clairs. Le pardon de Dieu n'est pas une parole en l'air. Ce sont des actes. Et je crois qu'il comprend à ce moment-là que le pardon n'a rien à voir avec le mérite. Qu'on ne peut pas acheter un pardon. On ne peut pas payer ni par des œuvres ni par de l'argent pour gagner son ciel. Il n'y a que le libre don qui puisse faire accéder au royaume de Dieu avec humilité, mais aussi dans la joie. Alors ce Père dont Jésus nous parle, bien sûr, c'est Dieu, ce Dieu qui nous surprend toujours, qui nous déroute. Et ici, la surprise est totale. Non seulement il accède à la demande de ce fils, il accepte de partager son héritage sans discuter, mais ensuite il accueille ce fils comme un fils et il l'introduit de nouveau dans la maison. Il fait la fête, car dit-il, mon fils qui était mort. C'est vrai, il était mort en partant, il était mort aussi en étant indigne. Il est revenu à la vie, il est de nouveau là et c'est cela qui compte. Et ce fils cadet qui essaie de trouver une solution au moment où il est arrivé au bout du rouleau, est la seule solution. C'est un marchandage, c'est de dire, voilà, je ne veux pas de réconciliation, ou je ne peux pas l'envisager, je veux être comme un ouvrier agricole. Mais c'était mal connaître le Père. Voilà notre Dieu, un Dieu qui nous laisse libres de commettre nos bêtises, pas seulement avant notre conversion, mais aussi après. Alors bien sûr, il nous garde aussi, mais parfois nous pouvons attrister le Saint-Esprit, comme dit l'apôtre Paul. Nous pouvons nous éloigner de Dieu. Et Dieu accepte que les hommes, qui sont sa créature, le rejettent, s'éloignent de lui, profitent de leur héritage, comme s'il leur appartenait. Alors qu'ils ne devraient se considérer que comme les gérants de Dieu, de la terre. Et un Dieu qui est prêt à nous accueillir à nouveau, les bras ouverts, qui nous offre sa compassion et son pardon. Un Dieu qui fait de nous ses enfants à part entière. Même lorsque nous nous éloignons, s'il nous arrive encore de nous éloigner, de dilapider son bien, il nous accueillera toujours parce qu'il nous aime. D'un amour qu'on ne peut pas comprendre, d'un amour qui n'est pas à notre hauteur, mais qui est à sa hauteur, c'est-à-dire, sa hauteur, c'est l'infini. Voilà pourquoi cette parabole nous étonnera toujours, voire nous scandalisera. Parce que nous aussi, c'est notre nature humaine, nous sommes trop souvent dans le système de la rétribution, du donnant-donnant, et non du pardon et de l'amour. Alors bien sûr, acceptons la grâce de Dieu. Parfois, c'est difficile aussi d'accepter. On veut donner une rétribution parce qu'on se sent redevable. Mais acceptons joyeusement la grâce de Dieu. Revenons à lui si nous sommes éloignés. Il est le Dieu du pardon. Et puis, soyons les imitateurs de notre Père céleste, comme Jésus nous l'a demandé. Vous serez donc parfaits, parfaits. Allez jusqu'au bout, même si la perfection n'est pas de ce monde. Comme votre Père céleste est parfait. Matthieu 5, 48. Et Pierre qui dit à Jésus, avec sa bonne foi, combien de fois pardonnerai-je à mon père, à mon frère, pardon, jusqu'à 7 fois? 7 fois, c'était pour lui beaucoup. Et Jésus de lui répondre, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. Matthieu 18, 19, 20. Et je termine par ce magnifique texte de Colossiens, chapitre 3, versets 12 à 14. Vous qui êtes choisis, vous qui êtes choisis par Dieu, saints et bien-aimés, saints, c'est nous. Revêtez-vous, une belle robe, la plus belle, d'une tendresse magnanime. Magnanime, je crois que ça veut dire qui s'est pardonné, qui s'est passé par-dessus les fautes. D'une tendresse magnanime, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et dans une église, il y a de quoi se supporter. Parce que, voilà, c'est le Seigneur qui nous a choisis. Et il a mis peut-être à côté de nous un frère, une sœur insupportable. Mais c'est pour notre perfectionnement. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce, c'est-à-dire pardonnez-vous. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Seigneur vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien parfait. Voilà textuellement ce qu'écrit Paul aux Colossiens et à chacun de nous, bien entendu. Eh bien, que Dieu nous aide à mettre sa parole en pratique, nous qui maintenant comprenons un petit peu plus ce qu'est cet amour insondable de Dieu pour chacun de nous. Prions. Seigneur, pardonne-nous si trop souvent nous te mettons en notre hauteur. Et merci pour cette parole et pour ce texte du Fils prodigue qui nous montre ce que tu es véritablement pour chacun d'entre nous, ce que tu as été, ce que tu es et ce que tu seras. Merci de faire de nous tes enfants, de ceux qui partagent ta gloire. Et un jour, nous serons avec toi, dans ta gloire. Nous ne verrons plus par la foi, mais nous verrons par la vue. Merci Seigneur pour cette grâce incroyable. Merci aussi de continuer à pardonner nos péchés et de nous accueillir toujours, de ne pas nous rejeter. Merci de marcher avec chacun de nous. Aide-nous aussi à nous accueillir les uns les autres, à nous aimer les uns les autres, à nous pardonner. Aide-nous, Seigneur, à mettre ta parole en pratique dans notre vie de tous les jours. Aide-nous par le Saint-Esprit. Bénis maintenant cette journée. Amen. Amen.